Un constat navrant, la santé mentale des personnes de LGBTQIA+ est en crise et il est temps d'agir. C'est le message d'Interlink qui a rendu public le mois dernier des données inquiétantes sur la santé mentale des personnes de la communauté, alors des communautés de la diversité sexuelle et de genre. Interlink, je le rappelle, c'est une ligne d'écoute téléphonique et de soutien pour les personnes de ces communautés. D'abord, il s'agit donc d'un sondage effectué par la firme Léger grâce au soutien de Femmes et Égalité des genres. Et pour en parler, on reçoit le directeur général, Pascal Vaillancourt. Bienvenue à l'émission.
Merci.
Alors, c'est quand même assez navrant ce qu'on trouve là.
Oui, en fait, c'est assez navrant, puis ça s'est exacerbé au cours des deux dernières années, je dirais.
Ouais.
C'est d'ailleurs ce qui nous a amené à vouloir faire cette étude-là, parce qu'à la ligne d'écoute d'Interlink, on sentait qu'il y avait une souffrance qui était de plus en plus grande. Et c'est probablement lié à différents facteurs dans notre écosystème.
Oui, on va y revenir, mais allons-y avec les résultats.
Les résultats, en fait, on en a quelques-uns que je peux vous partager aujourd'hui. Entre autres, un qui dit que 86 % des personnes LGBTQ+, contre 64 % de personnes non LGBTQ+, qui ont déclaré avoir au moins un défi en lien avec la santé mentale au cours des 12 derniers mois. Donc, c'est près de 20 % de plus dans les communautés LGBTQ+. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans le sondage, c'est qu'on a fait la comparaison avec deux échantillons, un échantillon de personnes de nos communautés et un échantillon de personnes hétérosexuelles et cisgenres.
89 %, c'est pratiquement 9 personnes sur 10.
Oui, exactement. En fait, c'est 86 %, mais oui, c'est ça, c'est presque 9 personnes sur 10.
86, excuse-moi, j'avais mal lu.
Oui.
Alors, il y a aussi d'autres choses qu'on apprend sur comment les gens se sentent en bas, s'ils sont en bas ou mauvaise santé?
Oui, en fait, on a entre autres aussi 63 % des personnes LGBTQ+, qui ont vécu au moins une situation de discrimination ou d'insécurité au cours des 12 derniers mois.
Quand même.
Pourquoi on s'est intéressé aussi à la discrimination? C'est qu'on voit un lien très fort entre les enjeux de santé mentale et les conditions d'acceptation de nos communautés dans la société. Également, une autre statistique intéressante, c'est 70 % des personnes LGBTQ+, contre 25 % des personnes non LGBTQ+, qui ont mentionné avoir peur de voir leurs droits reculer au cours des prochaines années. Ça, c'est quand même très, très, très inquiétant.
Avec ce qui se passe présentement, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur comment ces personnes-là voient leur santé mentale? Comment est-ce qu'ils la jugent?
Généralement, ces personnes-là ont bien répondu au sondage. Je pense qu'ils sont conscients des détresses qui les habitent. Puis ça prend toutes sortes de... Tu sais, quand on parle de santé mentale, parfois, c'est un petit peu flou dans la tête des gens. On parle de quoi? Mais les gens, ils parlent d'anxiété, ils parlent de dépression, ils parlent de burn-out, ils parlent de pensées suicidaires, de troubles, de choc post-traumatique. Donc, les gens sont quand même capables de mettre des mots sur la détresse qu'ils vivent. Puis malheureusement, un des constats qu'on voit aussi, c'est que à cause des conditions dans lesquelles vivent nos communautés, entre autres l'insécurité financière, parce qu'on sait que les communautés LGBTQ+ sont plus pauvres, malheureusement.
Oui, le fameux mythe de l'argent rose, là, faut oublier ça. Là.
C'est exactement. Puis quand on le voit dans toute son intersectionnalité, on peut voir que chez les personnes trans, c'est encore pire. La pauvreté est beaucoup plus grande dans ces communautés-là. Aussi, les relations familiales, amicales, c'est encore difficile dans nos communautés. Ça reste quand même le créneau le plus favorable où les gens vont chercher de l'aide. On se rend compte que les personnes vont souvent aller... 43 % des personnes LGBTQ+, vont aller vers un proche en premier avant d'aller vers un service public.
Ouais.
Donc, du pourquoi l'importance d'avoir des filets de sécurité dans nos familles ou avec nos amis autour de nous. Et malheureusement, comme je le disais, le climat social qui a de grands impacts également sur cette santé mentale-là.
Qu'est-ce qu'on apprend sur le soutien pour ces personnes?
Le soutien, en fait, à cause du climat social, il doit prendre beaucoup de formes. En fait, on se rend compte, entre autres, qu'il y a un enjeu par rapport à l'accessibilité de certains services. C'est un gros, gros enjeu en ce moment parce que les personnes qui sont allées chercher de l'aide le disent. Il y a plusieurs personnes qui sont quand même allées chercher de l'aide, mais disent que les services étaient peu adaptés à leurs besoins ou à leurs conditions ou les connaissances des communautés n'étaient pas là quand ils sont allés. Donc, ont peut-être vécu des micro-agressions en allant chercher du service. Ce qui est malheureux parce que tu es déjà en détresse, parce que souvent la détresse est liée à ta non-acceptation dans la société. Et là, tu vas chercher du soutien, puis en plus, on va mal s'adresser à toi parce qu'on n'a pas les connaissances. Donc, on contribue malheureusement à exacerber cette détresse-là dans ces circonstances-là.
Je l'ai rappelé quand même avant qu'on aille plus loin que c'est un sondage qui a été fait par la firme Léger, c'est quand même pas n'importe quoi, qui a été fait aussi auprès de 2007 répondants, tant de communautés et pas des communautés. Puis je pense que c'était partout au Canada, si j'ai bien compris.
Exactement. C'était ça, en fait, l'enjeu. C'est qu'à la ligne d'écoute, on sentait la détresse et on s'est dit, est-ce que c'est transversal à travers toutes les provinces? C'est-tu juste chez nous au Québec? Donc, on a eu le goût d'aller voir un peu avec Léger. On a des appels de partout au Canada chez Interligne, mais notre grande majorité d'appels vient du Québec. Donc, ça nous a permis d'aller voir c'est quoi la condition. Puis en plus, Interligne, on fait des voyages cette année. Oui. On va à la rencontre de différents partenaires. Les échos qu'on entend, c'est la même chose. À travers le pays au complet, on sent la détresse s'exacerber chez les communautés LGBT.
Tout ça, c'est inquiétant, Pascal. À quoi on peut attribuer? On a quand même glissé un petit mot tout à l'heure, mais à quoi on peut attribuer cette situation-là?
C'est beaucoup attribuable, encore une fois, au contexte social là, qui est de plus en plus difficile. Depuis 2 ans, on sentait déjà, depuis quelques années, les courants de droite s'installer au Québec. Depuis l'élection de Donald Trump, c'est vraiment, je dirais, exponentiel. On entend le mot Trump revient souvent même à notre ligne d'écoute. Donc ça, c'est une chose qu'il ne faut pas minimiser. Le climat social a de réels impacts dans la vie de ces personnes-là. Et on a évidemment envisagé quelques solutions. On en a qui nous viennent en tête, mais on a une conviction que le leadership politique doit s'affirmer à l'heure actuelle dans cette situation-là. On n'entend pas beaucoup les politiciens par rapport à l'exclusion des personnes LGBTQ+, mais on est convaincu qu'il faudrait les entendre davantage et que ça pourrait faire une différence sur le climat social.
Pour gérer cette situation-là, oui, on parle de l'implication politique, mais ça prendrait des services. Et ça, c'est un gros problème en santé mentale partout au pays, mais particulièrement au Québec.
Oui, bien ça, c'est une autre solution. En fait, on pense que les gens doivent être formés. Ils doivent être formés à la racine quand ils commencent à étudier pour aller devenir infirmière, pour aller devenir médecin. Dans ces formations-là, dans ces cursus scolaires-là à l'université, ils devraient avoir une mise en contact avec les personnes de nos communautés, puis de la formation, de la sensibilisation qui est continue, parce qu'évidemment, tous ces enjeux-là évoluent au fil des ans de la société, au fil des années. Donc, on pense certainement qu'il y a une meilleure formation de tous les services médecins, infirmières, mais tous les services publics, tous les services de première ligne devraient recevoir de la formation.
Là, Pascal, ce n'était pas prévu, mais j'aimerais ça aussi parler d'Interligne, de sa santé financière, parce qu'on se rappelle, il y a 2 ans, c'était le cri du cœur. Est-ce que ça s'est réglé, ça?
En fait, il y a 2 ans, on a pu bénéficier d'un financement de la part du gouvernement du Canada qui a transigé à travers le secrétariat de la condition féminine, à travers le ministère de Mme Biron. Donc oui, la situation va mieux à l'heure actuelle. Toutefois, comme tous les OBNL ou presque, c'est du financement à projet et ce financement-là arrive à terme en 2026. Donc si un financement n'arrive pas, nous allons probablement retourner en campagne éventuellement pour mettre de la pression un petit peu.
Pascal Vaillancourt, c'est un plaisir de te recevoir, directeur général d'Interligne.